Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la deuxième saison de Voices of Learning, le podcast qui donne la parole aux experts de la formation. Il y a des voix dans le monde de la formation et nous avons décidé de leur donner la parole. Ici, nous parlons contenu. Cette nouvelle saison est axée sur l'évolution du contenu pédagogique. Le point de départ sera l'approche catalogue de formation. Puis, au cours des épisodes, nous tournerons vers une approche orientée adaptive learning, et notamment adaptive learning sur étagère. Alors au programme, parcours de formation, culture apprenante, upskilling, gain de temps, il y a des voix, écoutons-les. Pour le premier épisode de cette nouvelle saison, nous avons l'honneur d'accueillir Salomé Bido, People Development Excellence Manager chez Doctolib. L'idée de cet épisode est de parler des différents enjeux liés au contenu de formation à travers la vision de Salomé. Alors, bonjour Salomé. Merci beaucoup d'avoir accepté d'intervenir dans notre podcast. Je suis ravie de t'accueillir. Dis-moi, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous présenter également le pôle learning de Doctolib, s'il te plaît?
Bonjour, merci de m'avoir invité au micro de Voices of Learning. Je suis contente de pouvoir passer un petit moment avec vous, de vous parler un peu de mon parcours chez Doctolib et de vous parler un peu de notre métier de People Development et le mien particulièrement. Partager un petit peu de mon expérience. Je m'appelle Salomé, ça fait plus de 3 ans que je travaille chez Doctolib en tant que People Development Excellence Manager. L'équipe People Development comprend plus classiquement les fonctions de formation globale, de gestion des compétences, développement des talents. Aujourd'hui, je gère une équipe de 4 personnes. Notre rôle, c'est de seconder notre directrice sur les sujets stratégiques, le budget, le plan d'action, suivi des objectifs et des résultats sur le Learn and Grow. Le Learn and Grow, c'est notre marque globale pour couvrir l'ensemble des projets de formation et de gestion des talents. Et nous gérons ainsi aussi la mise en place et la gestion, l'optimisation de notre suite d'outils pour la création, la gestion de nos formations, qu'on a appelé en interne la Learning Suite. Dans ce cadre-là, on a la responsabilité de coordonner, d'animer et de former une communauté d'une 60aine de personnes qui travaillent de près ou de loin sur nos sujets. Il y en a une partie évidemment qui sont dans notre équipe People Development, mais il y en a aussi une partie qui sont dans d'autres départements directement auprès des métiers. Pour vous parler un petit peu de moi avant Doctolib, j'ai oscillé dans le monde entrepreneurial sur des sujets de formation et d'innovation, et j'ai accompagné également des clients, conseils RH et conduite du changement. Et c'est vraiment dans des sujets RH de formation, de gestion des compétences, mais aussi des nouvelles manières de travailler, le futur du travail que je m'épanouis aujourd'hui. J'ai rejoint Doctolib au tout début de l'équipe People Development et aujourd'hui, on compte plus de 25 personnes en Allemagne, en Italie et en France dans un fonctionnement qu'on dit global puisqu'on dissémine et on partage des manières de travailler, des méthodologies et un outillage de façon globale. L'équipe est constituée de 5 pôles. Talent Development, qui veut s'occuper de l'ensemble des sujets autour de la gestion des compétences et la gestion des talents, des parcours de carrière. Une équipe Onboarding dédiée, qui s'occupe de structurer et de délivrer tous les mois notre Docto Academy. L'équipe Formation Produit pour former les Doctolibers, nos employés, aux produits Doctolib. Un pôle de formation continue pour tous. On va avoir des formations délivrées et disponibles pour l'ensemble des Doctolibers et pour les managers. Et enfin, mon équipe, l'équipe Excellence, qui accompagne les départements dans la création de formations continues, spécifiques métiers, en plus de l'ensemble des sujets stratégiques que je vous mentionnais ci-dessus.
Quelles sont vos problématiques en termes de contenu pédagogique ?
Alors, nos problématiques en termes de contenu, elles ont beaucoup évolué avec la structure. Aujourd'hui, Doctolib a 10 ans et on est 2800 collaborateurs. En France, en Allemagne, en Italie, donc on va avoir des enjeux de langue qui vont s'insérer, aussi des niveaux de maturité des différentes structures qui sont différentes. Ce qui change véritablement pour nous en 2023 avec le nouveau contexte auquel on fait face dans la situation économique actuelle, c'est qu'après 3 ans de croissance absolument fulgurante, en ayant triplé la taille de Doctolib, on a aujourd'hui atteint une taille stable et donc une forme de rythme de croisière auquel on doit s'adapter. Et c'est le cas aussi pour la formation. Pour nous, le temps, il est venu à la consolidation, à l'ancrage de nos acquis pour la suite. Alors, nos problématiques ont complètement changé parce que aujourd'hui, un de nos premiers enjeux, ça va être de réussir à passer d'une logique centrée d'abord sur l'onboarding à une logique de formation continue qui va être plus pragmatique actuellement. C'est évidemment un grand changement pour nous, puisqu'en fait, quand on recrutait encore dans les années précédentes plus de 100 personnes par mois, on était amené à avoir un gros focus sur l'onboarding avant tout, afin de permettre aux nouveaux arrivants de vraiment prendre en main leur poste le plus rapidement possible et de leur permettre de s'intégrer sur l'ensemble de la structure. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un peu moins de 50% de nos effectifs qui nous ont rejoints l'année dernière, ce qui indique quand même qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va aller vers des niveaux de seniorité dans la structure qui vont enfin dépasser l'année, voire les 2 ans. Ce qui va nous permettre et nous encourager dans l'équipe People Development de développer des contenus qui vont justement pouvoir nourrir plutôt la formation continue. C'est ça que je dirais que c'est la première problématique à laquelle on va faire face sur les années qui arrivent. Une deuxième qui est plus structurante, et je la vois vraiment comme le Saint Graal de chaque organisation apprenante, ou en tout cas une organisation qui vise à l'être, c'est celle d'ancrer la formation au-delà d'une vision traditionnelle, l'ancrer dans des habitudes de travail, comme quelque chose d'essentiel finalement, comme de l'eau et du sommeil, pour évoluer dans son poste et pour pouvoir évoluer en fait dans un monde qui bouge, un monde qui change. Que ça devienne réellement une composante du bien-être ou de la santé, entre guillemets, employée. Je pense qu'encore aujourd'hui, on a une approche, notamment guidée par l'État, le gouvernement, par exemple en France, qui est assez normée et traditionnelle, qui est dans la lignée un petit peu de ce qu'on vit à travers l'éducation nationale. Donc, on a une vision assez traditionnelle de ce qu'est la formation et ce qu'on doit apporter aussi en entreprise. Je pense véritablement qu'on a mis les bases et on a posé les bases chez Doctolib pour dépasser cette vision-là et pour proposer quelque chose de plus innovant et qui est plus moderne et en tout cas qui colle à nos habitudes de travail et qui colle aux besoins réels de nos employés. Je pense qu'après, il y a d'autres problématiques, mais qui sont sans doute attenantes à toute fonction de formation. Ce serait vraiment de prouver en fait l'impact de notre fonction. Et donc, de cette manière, pour nous, c'est de développer une approche plutôt méthodique de la gestion de notre portefeuille de formation, avec un vrai biais héroïste. Donc, vraiment de mesure de l'impact et du retour sur investissement de l'ensemble de nos programmes, afin de vraiment orienter nos choix de manière stratégique, éclairée sur le business. Et puis une autre problématique qui vient, elle est plutôt liée à notre structure et manière d'avoir abordé les questions de management chez Doctolib et la posture RH au sens large. On a opté pour une structure qui avait plutôt du management de proximité. Et un vrai enjeu qu'on a dans l'année qui vient et dans les années à venir, c'est de devenir le bras armé de notre équipe de management. On a plus de 700 chez Doctolib aujourd'hui. Devenir leur bras armé dans l'accompagnement de leurs équipes, que ce soit sur des problématiques de performance ou de développement. Donc le développement des carrières de leurs collaborateurs. Plus que jamais, moi je pense que la fonction People Development, en tout cas chez nous, se doit de soutenir les changements perpétuels de notre organisation, de la société qui bouge, qui change. Des ambiguïtés et de permettre à chacun, à travers la formation, d'évoluer à leur gré, dans leur poste, dans d'autres équipes à travers l'organisation. C'est un super challenge qui se prête à nous, celui de continuer d'éduquer après la formation initiale, après la formation scolaire, de lutter contre l'obsolescence des compétences, d'accompagner les métiers de demain. Il y a une phrase que j'entendais encore récemment d'une collaboratrice qui me disait dans 5 ans, le métier que je vais faire n'existe pas. Et je pense que tout notre challenge aujourd'hui dans notre fonction, c'est justement d'accompagner ces personnes qui cherchent à comprendre comment se réinventer dans un monde du travail qui évolue en continu.
Aujourd'hui, on sait qu'il existe différentes approches pédagogiques, l'approche catalogue, l'approche parcours, curation de contenu. Et selon toi, quelle est l'approche qui fonctionne le mieux?
Déjà, personnellement, je crois vraiment à la pertinence de lier les équipes carrière et talent development aux équipes formation. Et j'apprécie particulièrement ce choix stratégique chez Doctolib. De la même manière, je vois la pertinence d'associer et de rapprocher les équipes qui travaillent sur le strategic workforce planning, la planification stratégique des ressources et une approche de recrutement et d'évaluation qui se fait par les compétences. Là, le leitmotiv sur l'ensemble de ces rapprochements, c'est vraiment de tous travailler autour des compétences. Ça me semble être la structure qui fonctionne le mieux pour effacer des biais et des inégalités potentielles. De sorte que, pour moi, l'approche pédagogique qui peut mieux fonctionner, notamment dans une structure où se former n'est pas encore donc n'est pas encore un réflexe, un peu comme un rejet face à une éducation normée et traditionnelle ou un parcours où on n'a pas forcément eu le choix et on a dû prendre et suivre un petit peu ce qu'on nous disait de faire dans l'éducation plutôt classique scolaire. Bah, du coup, l'approche, c'est celle d'une approche qui, derrière la formation, donne vraiment un sens, une direction qui va dépasser le rôle et le poste et beaucoup plus venir toucher l'individu, l'apprenant par rapport à ses envies de développement. Donc c'est une approche qui pense la formation davantage comme un parcours. Par ailleurs, je pense aussi, je dis souvent que tous les chemins mènent à Rome, et je pense qu'en formation, la confiance en l'apprenant, en ce que lui souhaite faire, prime, devrait primer. Donc je vois vraiment notre rôle comme celui d'orienter par des parcours, tout en donnant de la liberté pour que chacun puisse adapter son expérience d'apprentissage. Ça peut sonner un petit peu comme si je suis en train de dire que l'approche qui fonctionne, c'est un peu de catalogue, de curation et un peu de parcours. C'est le cas, mais en donnant une intention claire derrière. Je pense qu'on fait un peu du mi-figue mi-raisin quand on n'est pas très clair sur l'intention et en tout cas l'implication, la responsabilité de l'apprenant dans son parcours d'apprentissage.
Et vous, chez Doctolib, quelles sont vos approches et pourquoi les avoir choisies ?
Chez Doctolib, notre approche, elle a beaucoup évolué avec le temps à nouveau. Historiquement, on avait beaucoup de contenus de formation qui étaient développés in-house, du présentiel ou du digital, mais qui se limitaient plutôt à du texte et un quiz. Et naturellement, notamment au démarrage, notre approche en période de forte croissance, ça a été de développer l'essentiel pour avoir un maximum d'impact. Donc on avait plutôt une approche parcours. Aujourd'hui, je trouve qu'on essaie d'avoir un équilibre. Pour moi, d'abord, la formation, ça reste un métier, celui de la curation de programmes et de parcours également, un métier vraiment d'expert et un métier qui me semble nécessaire, celui de vraiment designer, concevoir nos produits avec une intention pédagogique claire. Et de fait, on a beaucoup évolué là-dessus, puisqu'en fait, on ne se limite pas à simplement fournir un texte qui peut être fourni par un expert, juste un expert du sujet, et pas nécessairement un expert pédagogique, un ingénieur pédagogique et un petit quiz. Donc notre approche, elle reflète aussi cette croyance-là, que pour avoir plus d'impact et pour optimiser nos coûts, les synergies, l'impact de la formation aussi, il faut commencer par un parcours et une approche qui est un parcours par persona, les associer avec des objectifs métiers clairs et des objectifs pédagogiques du coup qui les reflètent. Évidemment, on a quand même testé l'approche catalogue. On l'a testé à travers différentes plateformes plutôt généralistes. À l'issue de quoi, on s'est quand même aperçu qu'une approche libre-service qui porte des fruits en termes d'engagement plutôt forts, bah, c'était impossible de le faire sans l'associer avec des intentions ou un plan porté par un manager ou par une équipe formation derrière qui au quotidien pousse et booste les contenus. Donc pour nous, c'est quelque chose qui a combiné si on était à garder une approche catalogue avec l'approche parcours. Et donc in fine, l'approche libre-service ne fonctionne que si en même temps on propose un parcours structurant avec des intentions qui permettent de guider l'apprenant. Évidemment, ça peut sembler moins contraignant de simplement acheter entre autres des accès à une plateforme généraliste et c'est peut-être même plus responsabilisant, mais au fond c'est beaucoup plus désengageant en tout cas avec la population qu'on a de notre côté et dépersonnalisé comme expérience. Donc, on a souhaité plutôt garder en fil rouge sur l'ensemble de nos modalités et dans notre approche, le parcours de vie de l'employé et les besoins organisationnels avant tout, quoi. Je reste convaincue qu'une approche « tous les chemins mènent à Rome » n'empêche pas de proposer des chemins pour arriver à Rome. Et ce que j'ai trouvé super quand j'ai rejoint Doctolib, c'est aussi cette volonté vraiment entrepreneuriale de nos apprenants. On a certains apprenants que je dirais assez pionniers en la matière qui ont réussi à inventer et trouver leur propre chemin avant même qu'on sache qu'il existe dans l'équipe formation. Et concrètement, ça se traduit par des développeurs qui ont évolué au gré de leur parcours pour pouvoir devenir product manager, suivre les bonnes formations pour y arriver. De même pour des personnes qui travaillaient plutôt côté formation, qui sont arrivées aujourd'hui à des postes plutôt du côté du produit de Doctolib. Pour moi, une bonne approche de formation, c'est celle qui parvient à guider ceux qui ont besoin, mais qui apporte cette agilité des formations à la carte, qui permet de faire du multimodalité pour s'adapter aux préférences d'apprentissage et aux besoins de chacun en fonction de leur parcours de vie dans la structure.
À présent, si nous parlions des formats de contenu. Par exemple, chez vous, en interne, comment ont évolué les formats pédagogiques? C'est-à-dire, quels étaient les formats au début, au commencement de Doctolib, puis les nouveaux formats que vous avez développés, expérimentés avec le temps?
Comme pour beaucoup de startups et de scale-up, la formation chez Doctolib, elle est d'abord née d'une nécessité opérationnelle, celle d'être onboardé hyper rapidement sur son poste pour pouvoir travailler auprès de nos praticiens, au plus vite, au mieux. Depuis le début, donc depuis 10 ans en fait, on a créé deux piliers du learning. Le premier, c'est une Docto Academy, c'est notre programme d'onboarding, un onboarding assez conséquent. Et ce qu'on appelait à l'époque une Bible, aujourd'hui qui est plutôt connue sous le terme de Cortex, c'est notre intranet, notre base de connaissances communes, en tout cas sur des éléments de base et communs à l'ensemble des Doctolibers. Donc on a toujours une vision depuis le début assez pragmatique de la formation, et on n'était pas nécessairement dans une vision traditionnelle, on faisait ce qui était le plus rapide et qui pouvait nous permettre assez rapidement d'engager nos collaborateurs. Depuis le début, knowledge, la gestion des connaissances et le learning ont toujours été très liés. Donc, pour aller au plus simple et efficace, sans équipe dédiée, c'est d'abord focaliser sur ce qui marchait bien dans un cadre qui évoluait rapidement, c'est-à-dire de la formation en présentiel, en live, et de la lecture. Donc, depuis, effectivement, ça a quand même pas mal évolué, on a beaucoup expérimenté. On a commencé d'abord par développer du micro-learning, notamment pour les équipes commerciales et notre équipe service client, pour les aider à valider plus rapidement leurs connaissances. Ça venait sous une forme plutôt de petit quiz. Et depuis maintenant 3 ans, on développe des formats de plus en plus en blended. Là, je pense qu'on a testé pas mal de choses. Parfois, on a fait que du digital, quand le contenu était très stable, pour que ce soit plus digérable. Donc sous un format plutôt packagé sur Articulate, on a aussi expérimenté avec des formats vidéo qu'on montait nous-mêmes, du motion design. Des vidéos aussi, on a eu des collaborateurs qui ont pu jouer et être acteurs de petites chaînettes. On a testé le podcast, des démos vidéo avec l'écran et la caméra où on voit les têtes de la personne sous un format Loom. Des serious games et on développe davantage des ateliers et aussi des modalités de social learning. D'autres formats de contenu qui, selon moi, fonctionnent bien et qui sont plutôt dépendants de la population, ça va être le format de podcast, notamment pour nos équipes commerciales qui vont être souvent en déplacement, se déplacer en voiture ou en train pour rencontrer les praticiens.
À quelle vitesse s'est fait la digitalisation des formats pédagogiques ? Avez-vous surfé sur les tendances ou êtes-vous plutôt resté traditionnel ?
Dans la continuité, on a commencé par développer un peu de micro-learning, notamment pour les équipes commerciales et notre équipe service client. Ça leur permettait de valider leurs connaissances sous forme d'un petit quiz, notamment après les formations live et après les lectures, pour vraiment ancrer ce qu'ils avaient appris pendant les sessions. Et depuis maintenant 3 ans, on développe de plus en plus d'expériences en blended. La question ne s'est pas vraiment posée pour nous de faire du digital ou pas, puisqu'on baignait quand même déjà dans le digital. On n'a que 10 ans, en fait, Doctolib. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui nous semblait assez naturel. Mais c'est vrai qu'avec le Covid, on a dû repenser un petit peu notre approche présentielle. Et avec notre croissance forte, au fur et à mesure où nos contenus se sont stabilisés, on a pu opter pour des formats qui étaient un peu plus digitaux, plus digérables sous format packagé, sous Articulate, sous SCORM ou sous format vidéo. On n'a simplement jamais eu de plan d'action qui visait à digitaliser une formation existante en live. On l'a fait assez naturellement, mais pour pouvoir coller au plus proche des besoins des Doctolibers, de réécouter des formations, de les faire dans leur propre temps et pas nécessairement dans un besoin de digitaliser comme ça a pu être le cas dans d'autres structures.
Quel format de contenu privilégiez-vous et qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon vous?
Il n'y a pas un format qu'on privilégie par rapport aux autres. On a testé plusieurs choses et je pense qu'on les choisit toujours en fonction de l'audience, des personas auxquels on fait face. Par exemple, le format podcast plaît beaucoup aux flottes commerciales parce que ça leur permet d'écouter ça quand ils sont dans les transports. On a testé aussi d'autres modalités, micro-learning, des démos vidéo, des vidéos interactives aussi, avec comme acteurs les Doctolibers, qui ont été des formats assez engageants, des serious games, des ateliers live. Donc on a fait pas mal de formats en fonction vraiment de la typologie de formation pour pouvoir vraiment engager l'apprenant dans une vraie expérience. On est aussi des adeptes du peer learning, du social learning, et une de mes modalités préférées chez Doctolib, c'est celle qu'on a appelée les L Squad. Donc, ça va être des groupes qui se retrouvent une fois par mois sur un format d'une heure, des groupes de 4 à 5 personnes menés par ce qu'on appelle un squad captain qui va mener une discussion presque en forme de co-dev autour d'une thématique qui peut être le management. Dans ce cas-là, on appelait ça les M Squad, ou ça peut être sur la gestion de projet, la gestion de communauté ou autre. Et ces moments d'apprentissage, moi, je les trouve super parce qu'ils sont responsabilisants et apprenants pour chaque collaborateur. Ils sont aussi assez challengeants pour la fonction de formation, puisque ça demande un certain lâcher-prise du formateur quand on intègre cette modalité-là dans nos parcours. Un lâcher-prise parce qu'on ne sait pas nécessairement ce qui peut être partagé pendant ces sessions, mais ce qu'on a constaté suite à plusieurs retours d'expérience, c'est effectivement que c'est un format qui leur permet vraiment de manière mensuelle de se retrouver sur des problématiques qui leur tiennent à cœur pour pouvoir continuer d'apprendre sur ces sujets. Et on le sait, c'est en transmettant aux autres aussi qu'on se rend compte de tout ce qu'on a appris et qu'on apprend et qu'on ancre mieux ce qu'on a pu voir par le passé. Je trouve que c'est un format qui est simple sur la mise en place, mais qui a énormément de bénéfices, notamment celui de rester toujours au goût du jour, puisque chaque apprenant vient avec ses expériences actuelles, et donc de fait, la modalité reste assez intemporelle. Pas de mise à jour nécessaire du contenu. Ce sont les apprenants qui créent le contenu entre eux. Alors certes, après, il n'y a pas nécessairement de capitalisation sur les connaissances de chacun ou sur ce qui est dit en séance, mais c'est aussi la beauté de cette modalité.
Qu'est-ce que tu aimerais avoir mais que tu ne trouves pas sur le marché?
Moi, je crois vraiment à la puissance du jeu dans la formation pour pouvoir ancrer et puis pour apporter une expérience qui est assez rafraîchissante pour l'apprenant. Et sur le marché, je n'ai pas trouvé encore de producteurs de contenu ou en tout cas un format ou un facilitateur finalement de cette création de contenu. Ça pourrait être pour créer facilement des jeux de société ou des adaptations de jeux de société qui se prêtent à la formation. La création de serious games, que ce soit comme une forme de jeu vidéo ou en live. À chaque fois qu'on a voulu développer ce genre de modalité, ça prend quand même pas mal d'énergie et ça nous a forcé à développer nous-mêmes les cartes ou le jeu, les règles du jeu. Et je pense qu'on pourrait facilement adapter ça. Donc ça, c'est quelque chose que je ne trouve pas. Donc si quelqu'un a trouvé, je suis preneuse. Et j'adorerais pouvoir donner à chaque L-Squad une forme de jeu de cartes sur leur thématique pour leur permettre de vraiment animer ces sessions de manière la plus fluide possible et avec un encadrement qui est limité par un formateur. Et de façon plus pragmatique, on est à la recherche d'un outil qui permettrait de faire des questionnaires de positionnement et d'assessment d'une compétence avant de commencer une formation pour pouvoir bien se situer, quelque chose qui serait intégrable facilement à un module de formation à LMS ou à un SCORM, tout simplement un module de SCORM. Aujourd'hui, on peut le faire et on le fait plutôt manuellement avec des outils de questionnaire classiques et on design l'ensemble. Mais on aurait aimé pouvoir intégrer ça directement dans nos packages SCORM pour que l'apprenant puisse se situer avant et après de la formation sur une compétence donnée. Et si également vous avez quelque chose, ça, on est carrément preneur.
Alors, j'ai envie de te dire que oui, on a quelque chose chez Domotio. On a notre produit Domotio Hub qui permet aux apprenants de s'évaluer en amont et en aval d'une formation via des questionnaires de positionnement. L'objectif étant de mesurer sa montée en compétences. Je pense qu'on pourra en rediscuter. En attendant, je me permets de continuer notre petit épisode en passant cette fois-ci à la partie plus orientée production de contenu. Est-ce que la production de contenu est centralisée au niveau des équipes de formation ou au contraire elle est décentralisée au niveau d'experts métiers? Et est-ce que les collaborateurs ont eux-mêmes la possibilité de créer et partager du contenu?
Tout à l'heure, je vous ai expliqué que mon équipe est en charge de coordonner, d'animer et de former une communauté de personnes chez Doctolib qui travaillent de près ou de loin sur les sujets de formation. Et c'est pour qu'on ait des méthodologies communes, un outillage commun. Donc, pour quand il s'agit justement de la méthodologie et de l'outillage pour la production de contenu, tout ça, c'est centralisé dans l'équipe globale People Development. Mais pour la production en tant que telle, elle se fait sous un modèle fédéré. Donc, c'est des personnes qu'on forme aux outils, qui sont sensibilisées aux bases du coup de l'ingénierie pédagogique et qui se situent pour la plupart dans l'ensemble des équipes métiers. Après, pour l'ensemble des contenus qui sont développés à destination de l'ensemble des Doctolibers ou des managers, c'est développé par l'équipe globale. On a occasionnellement des Doctolibers qui ne sont pas dans la communauté, qui ne sont pas experts métiers ou qui ne sont pas ingénieurs pédagogiques, qui souhaitent partager des connaissances et des formations à destination de l'ensemble des Doctolibers. Et dans ce cadre-là, on les accompagne. Donc, il y a la possibilité, entre autres, qu'ils créent et qu'ils partagent, mais pas dans un système normé ou démocratisé de création de contenu. La raison pour ça, c'est principalement un manque de temps. Déjà, on préfère mobiliser les Doctolibers pour qu'ils puissent former et transmettre à leurs pairs en étant du coup facilitateur de formation avec nous ou en étant speaker. Mais pour avoir du contenu de qualité qui puisse en une heure permettre aux Doctolibers de faire le tour d'un sujet, bah, il faut toujours une intervention de quelqu'un qui a été formé dans cette communauté. Globalement, nos experts métiers, nos SMI contribuent sur le fond et on intervient sur la forme pour que le rendu soit plus qualitatif pédagogiquement parlant. Et comme ça nous permet vraiment de distinguer une forme de déversement de connaissances et de travailler plutôt sur une acquisition de compétences sur le long terme.
Votre contenu est-il produit en interne ou en externe? D'ailleurs, quelle est la part de contenu produit en interne versus acheté en externe et pour quelles raisons?
J'avoue que la question de l'interne ou de l'externe pour la création de contenu, je pense qu'elle se pose vraiment différemment en fonction du stade de maturité de la structure et aussi des moyens, que ce soit des moyens en termes de ressources humaines, en termes de temps, qu'en termes de budget aussi. Nous, historiquement, on a eu beaucoup de contenu qui a été fait maison, notamment parce qu'on avait beaucoup de spécificités liées à Doctolib. Depuis, on a quand même pas mal évolué et on évalue quand on a besoin de plutôt créer une formation chez Doctolib directement. C'est souvent parce qu'on a un niveau d'adaptation à notre culture qui est nécessaire, on a beaucoup d'éléments qui sont propres à l'activité de Doctolib et qui vont être importants pour la stratégie de l'entreprise. Et ça va déterminer notre internalisation de la création du contenu. On va avoir maintenant un meilleur équilibre entre ce qu'on achète et ce qu'on crée en interne. On essaie notamment de sourcer du contenu de qualité sur des sujets qui sont quand même bien développé en externe autour de du feedback notamment ou du management qui sont quand même des sujets sur lesquels on a beaucoup d'offres disponibles sur le marché. Après, l'internalisation, elle compose un avantage. Elle permet d'engager les collaborateurs aussi dans la création. C'est un outil d'engagement d'une certaine manière. Donc, on a eu des Doctolibers qui ont participé à des tournages aussi pour pouvoir créer des petites vidéos pour les autres Doctolibers. On a aussi beaucoup déployé de formations sous un format train the trainer, donc en formant des Doctolibers qui ne sont pas nécessairement des trainers au quotidien, des formateurs, qui vont pouvoir assister à une première version de la formation et après refaire la formation auprès de leurs équipes. Une raison principale pour nous d'acheter en externe, c'est notamment pour gagner du temps et quand quelque chose est assez urgent, ou alors pour vraiment faire du sur-mesure pour Doctolib, mais très qualitatif. Et parfois, quand les compétences métiers, on ne les a pas encore en interne, ou alors qu'elles sont meilleures en externe. Donc ça, c'est vraiment les cas de figure dans lesquels on a tendance à acheter en externe. Après, on a de la chance d'avoir une communauté qui est assez large. On compte une soixantaine de personnes, donc ça fait quand même un bon vivier pour pouvoir déployer des formations et produire des formations de qualité sur l'ensemble de la population de Doctolib.
Concernant les contenus produits en externe, sont-ils sur étagère ou sur mesure?
Alors pour nos contenus qu'on achète en externe ou qui sont produits en externe, on a plutôt tendance à faire du sur-mesure ou en tout cas à s'assurer que ça puisse rentrer dans un programme en blended, dans ce qui existe déjà en interne. Donc on mêle un petit peu de l'interne et de l'externe. On a testé du contenu plutôt sur étagère et on en a toujours, mais plutôt pour des formations très spécifiques, par exemple liées à la data, des formations plus techniques. Dans ce cadre-là, ça restera sur étagère. Mais on a aussi trouvé qu'il y avait un manque d'engagement sur du contenu purement sur étagère, qui n'était pas adapté à la culture Doctolib. Donc la majorité du temps, quand on achète en externe, on essaie quand même d'en faire un projet où on peut l'adapter au cas de figure de Doctolib ou en tout cas bien l'intégrer dans un parcours qui est existant. Ça nous permet notamment de garantir une forme d'engagement autour de ce contenu acheté.
Et cette fois-ci, tournons-nous plus vers la diffusion de ce contenu. Donc, comment ça se passe chez Doctolib? Comment vos contenus sont-ils diffusés?
Aujourd'hui, on a l'ensemble de nos formations distancielles, présentielles, blended, e-learning qui sont sur notre plateforme LMS dans notre SIRH, donc c'est Workday. Mais les Doctolibers vont s'informer sur l'ensemble de l'offre de formation qui va avoir des modalités qui diffèrent et qui ne sont pas suivies sur le LMS, apprendre des utilisateurs, mais aussi apprendre des pairs avec les L-Squads dont je parlais tout à l'heure. Et tout ça, ils vont pouvoir le faire à travers notre intranet Cortex sur ce qu'on a appelé le Learning Corner. Sur le Learning Corner, ils vont pouvoir avoir accès à l'ensemble du catalogue de formation qui va être global, mais aussi à l'offre de formation qui va être spécifique métier, qui est développée particulièrement par les Learning Leads. On a aussi l'ensemble de nos formations qui vont être communiquées, ou en tout cas, on va faire des rappels mensuels ou trimestriels de l'offre via notre réseau social d'entreprise, donc Slack. Et on va avoir surtout des réunions mensuelles sur lesquelles on peut rappeler parfois ou faire la pub d'une formation qui vient d'être lancée à l'échelle globale. On s'appuie tout particulièrement sur la communauté des Learning Leads pour communiquer auprès de leurs équipes les nouveautés en termes de formation et pour faire le nécessaire pour ancrer notre routine d'une heure de formation par semaine pour chaque Doctolib.
Merci beaucoup Salomé. Je vais finir avec deux petites questions. Donc la première, quel est votre gros projet contenu dans les mois, voire années à venir?
L'année 2023 pour Doctolib, et notamment pour notre équipe, c'est une année de simplification et d'ancrage. Pour People Development, ça va être l'année de la consolidation de nos acquis, la consolidation aussi de nos programmes et de nos manières de travailler. Et donc je dirais que pour décrire un petit peu le gros projet qui nous tient, c'est le développement de notre état d'esprit plutôt tourné ROI et impact dans l'ensemble de la communauté. Donc on est en train de faire une campagne de sensibilisation sur la philosophie du Learn and Grow chez Doctolib. On a lancé la marque l'année dernière, Learn and Grow, et maintenant il s'agit de consolider ça et de partager des messages clés qui vont être portés par l'ensemble de notre communauté. En parallèle, et pour soutenir cette campagne, on a travaillé sur notre politique de formation, la gouvernance de notre gestion de portefeuille formation. On est en train de travailler sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, que ce soit de notre catalogue global, sur l'intranet, que le LMS. Et surtout, avant tout, je dirais qu'on est en train de travailler et de former nos administrateurs pour qu'ils adaptent un état d'esprit vraiment retour sur investissement, pour avoir un ownership de A à Z sur les KPIs, pouvoir prendre des décisions grâce à une scorecard sur leur formation, penser vraiment au budget, à la gestion de leurs ressources et vraiment porter leurs décisions sur les résultats, notamment de satisfaction ou autres pour leur formation.
Et ma deuxième question est, qu'est-ce que vous aimeriez voir dans votre organisation dans les années à venir ?
J'aimerais dans les années à venir pouvoir continuer de positionner le service People Development, le service de formation, au service des diverses directions qu'on a et nous positionner comme un allié stratégique pour planifier et accompagner les équipes au quotidien dans leur développement, mais aussi un allié de performance. Je trouve que la tagline de notre marque vient vraiment bien représenter notre état d'esprit. The more you learn, the more you enjoy, the more you perform, the more you grow.
Eh bien, quel épisode! Merci beaucoup Salomé, ton expertise est vraiment intéressante à écouter et je pense d'ailleurs que les auditeurs seront du même avis.
Tiens encore pour l'invitation, ça a vraiment été un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets passionnants. Et puis pour les autres, ceux qui nous écoutaient, s'il y a d'autres passionnés de la formation qui veulent échanger, n'hésitez pas à me contacter.
Merci à toi Salomé pour ton intervention. Merci également à nos auditeurs. Vous pourrez retrouver les coordonnées de Salomé dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Cet épisode touche à sa fin et nous nous retrouvons prochainement pour la suite de cette saison axée sur l'évolution du contenu pédagogique.